le jazz est quand le jazz est là.
Et bonjour, vous êtes avec Jean-Michel, et oui, c'est le 1er janvier 2026, alors à tous les auditrices et auditeurs de Radio Écho des Choucas, je vous souhaite une belle et merveilleuse année 2026. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'histoire du jazz. Alors, c'est une émission un peu particulière, parce que on va remonter le temps, et on va essayer... Enfin, je vais essayer de vous répondre à plusieurs questions, notamment, est-ce que le jazz a été interdit en URSS ? URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, hein, je précise. Et si ça a été interdit, par qui et quand ? Alors, avant de répondre à ces questions, on va faire un petit retour en histoire et on va se demander ce qui s'est passé dans les années 20. Alors dans les années 20, le jazz a été accueilli favorablement en URSS. Pourquoi ? Parce que l'URSS y voyait une musique moderne, populaire et presque révolutionnaire. Et la révolution, elle est très simple. Les dirigeants soviétiques de cette époque, Lénine, Trotsky, considéraient le jazz comme la musique de la minorité afro-américaine opprimée. La musique pouvait se muer en nouvel instrument de lutte politique. L'histoire du jazz soviétique a commencé le 1er octobre 1922, lorsque le premier concert de jazz avec des musiciens amateurs a eu lieu à Moscou. Les groupes de jazz américains du tromboniste Frank Withers et de Sam Wooding se sont rendus en Union soviétique, donnant une série de concerts couronnés de succès. Frank Withers était membre du Big Band Mitchell's Jazz Kings, qui a été très influent sur la scène parisienne dans les années 20 et a effectué des tournées dans toute l'Europe. Et on va les écouter danser Paris, un morceau que l'on imagine qui était joué en URSS. Sam Wooding, qui est un pianiste, chef d'orchestre et arrangeur, et notamment à la tête d'un big band baptisé Chocolate Dandies. Et on imagine qu'il a joué à Moscou, puisqu'il y est allé avec son orchestre, ce morceau intitulé Mournful Blues. Le compositeur Dmitri Shostakovich a composé deux suites de jazz. Dans les années 30, connues sous le nom de Jazz Suites, ces œuvres ont été créées en réponse à la demande du gouvernement soviétique pour refléter ce genre musical émergent. Leur authenticité jazz est bien évidemment contestable, autant que de la part de ce compositeur. Il n'y a aucune place à l'improvisation. Nous allons toutefois le vérifier dans ces extraits des suites de jazz. D'abord la suite numéro 1. Avec cette polka, suivie de Foxtrot, et c'est joué par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly. D'abord, la polka. Après la polka, voici le foxtrot. Thank you. c'était deux extraits de la suite numéro 1 de Dmitri Shostakovich, suite numéro 1 de jazz. Je vous épargne la suite numéro 2, écrite en 1938, qui est peut-être encore moins convaincante quant à son aspect jazz. Et vous êtes sur Radio Écho des Choucas 103.7. Cependant, cette approbation du jazz des années 20 a rapidement changé dans les années 30 sous le régime de Staline. Le jazz, avec ses improvisations, son swing, ne correspondait pas aux normes du réalisme socialiste et était perçu comme une musique capitaliste, dégénérée, anti-russe et décadente. Les jazzmen étrangers ont été interdits d'entrer en Union soviétique, les groupes locaux ont été laissés en paix, mais leurs concerts ont été limités. Néanmoins, durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de groupes de jazz ont organisé des concerts afin de remonter le moral des troupes. Et entre 1930 et 1945, il a existé un orchestre d'État de jazz de l'URSS dirigé par Viktor Knouchevitsky. Cet orchestre a enregistré à Moscou une version du Caravane de Duke Ellington en 1939 que voici. Et après cette réinterprétation du Caravane de Duke Ellington par l'orchestre d'état de jazz de l'URSS dirigé par Viktor Knouchevitsky, on va écouter les mêmes dans un morceau intitulé tout simplement « Blues ». Alexander Zwassmann, pianiste, compositeur et chef d'orchestre, est considéré comme l'un des pionniers du jazz soviétique. Il a fondé son premier orchestre en 1926, un octuor, le AMA Jazz Band, AMA pour Association of Moscow Authors, dont j'ai déniché ce morceau intitulé, alors vous m'excuserez pour la prononciation, Sannyayaskaya Kolibelnaya, que voici. En 1928, la EMA est rebaptisée Moskovskie Rebiata, les garçons de Moscou, et s'agrandit. En 1933, il a atteint la taille des groupes de swing américains habituels de l'époque. Et entre 1939 et 1946, Alexander Zwassmann dirige l'orchestre de jazz de la radio de l'Union soviétique, avec lequel il popularise le jazz à travers des enregistrements, concerts et émissions radiophoniques. Nous avons écouté cet orchestre dans ce premier morceau, dont le titre est traduit en anglais et s'intitule « This flower is not bright ». Et je n'ai pas trouvé le nom de la chanteuse.
Thank you. этот цветок не ярок, этот цветок подарок я принесла тебе, мой друг. Вот он головкой алой тихо поник усталый, тихо поник, склонив свой стебелек. Пусть он цветет в бокале, взор услаждая и радуя твой, он не мой печали, скромный цветок полевой. Этот цветок не ярок, этот цветок подарок я принесла тебе, друг милый мой.
Après la Seconde Guerre mondiale, durant cette période qu'on appelait la guerre froide, écouter du jazz était associé à l'ennemi américain. La propagande affirmait que, j'ouvre les guillemets, jouer du jazz aujourd'hui, c'était trahir son pays le lendemain. Je ferme les guillemets. Et Alexander Tsassman a été licencié de la radio d'État. Malgré cela, le jazz a continué à vivre clandestinement dans des caves, des appartements privés pour contourner la censure. Dans les années 60, une relative détente permit une reprise timide avec l'organisation de festivals et la renaissance du jazz soviétique. De nouveaux groupes ont été formés, des livres et des films sur le jazz ont été publiés et en 1964, le club de jazz The Bluebird a ouvert ses portes à Moscou. Les musiciens étrangers ont à nouveau été autorisés à entrer dans le pays, dont des concerts du saxophoniste Jerry Mulligan, mais il resta toujours considéré comme américanisant. La suspicion persistera jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Et on va refermer cette émission que vous pouvez retrouver ainsi que les précédentes en podcast sur radio-rec.fr avec l'orchestre de jazz de la radio de l'Union soviétique dirigé par Alexander Tsassman dans un morceau intitulé « Lyric Call Foxtrot ». Thank you. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et on va aborder un nouvel aspect du jazz, le cool jazz et le West Coast jazz. À bientôt. Au revoir.